Point les plus durs dans une prédication, bon, ça dépend des gens après, hein, mais c'est souvent de faire l'introduction ou la conclusion. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une prédication avec juste des introductions, juste pour le défi comme ça. Non, en fait, c'est-à-dire que je me suis intéressé en fait aux introductions des épîtres. Vous suivez un petit peu. Et je pensais faire une série d'introductions parce qu'il y a des... En fait, je trouve qu'il y a des phrases qui sont en quelques versets comme ça, des intros de Romains, Éphésiens ou autres, qui sont un condensé de choses qui viennent du Seigneur et où c'est vraiment dense en choses et en idées. Et puis en fait, ben, je me suis tellement étalé dans ce que j'ai préparé qu'on fera juste l'épître aux Romains et juste l'introduction à l'épître aux Romains. Mais il y a vraiment, je vous encourage en fait à faire les autres, à les relire. On a tendance à passer dessus rapidement, justement, parce que c'est l'introduction. Et à lire rapidement, bon voilà, c'est Paul qui s'adresse à un tel, et bon, on passe rapidement. Mais il y a vraiment des idées qui sont complexes des fois, et c'est tout des paragraphes qui sont riches, comme le restant de la Bible, hein, mais justement, faut pas passer dessus. Voilà. Donc, on va juste regarder Romains, chapitre 1, et les 7 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi un truc typique de Paul, c'est des phrases longues comme ça, et qu'il faut réussir à redécouper un peu dans sa tête pour réussir à le suivre, en fait. Alors, on va rester avec classique, puisqu'on parle intro, conclusion, j'ai pris 3 points. Dans ces petites phrases-là, on aurait pu en prendre des dizaines, hein. Il y a plein de choses, mais juste trois choses qui m'ont marqué en le relisant. Donc, du coup, on ne sera pas forcément chronologique par rapport à ce qui est écrit, mais ce n'est pas grave. Le verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. En fait, ce qui m'a marqué dans ça, c'est que la bonne nouvelle, elle est promise depuis bien longtemps par Dieu et dans l'Ancien Testament. Dieu, il n'a pas changé. Il est resté pareil, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et son plan non plus n'a pas changé. Nous, on a tendance à faire les choses, à dire « Ah mince, je me suis raté, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, à s'y reprendre, et voilà. » Et c'est peut-être caractéristique de moi, mais souvent, on s'y reprend plusieurs fois pour avoir quelque chose qui commence à être sympa. Dieu, il s'est pas repris en plusieurs fois. Il avait prévu son plan dès le départ, et après, il n'est pas arrivé en cours de route. Ah mince, l'homme il est tellement mauvais que je laisse tomber ça, je fais un autre plan parce que là, c'est pas possible, il est trop mauvais l'homme. Dès le départ, il savait qu'on était mauvais, que tout ce qui était la loi, ça ne fonctionnerait pas, mais que ça mettrait en évidence le fait qu'on était mauvais. Et il avait prévu le salut par Jésus, par la foi après. Et ça, c'était prévu depuis le tout début. Alors, on retrouve ces idées-là un peu dans plusieurs versets. J'ai pris Luc 1. Verset 67. Donc c'est Zacharie qui prophétise à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Donc Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » C'était comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et ça, on en retrouve énormément dans le Nouveau Testament, comme il était écrit que... Et en fait, on remène toujours à l'Ancien Testament, en fait. Il y a un tas de références. J'ai pris encore une référence dans 1 Pierre. J'ai pris 1 Pierre, verset 1. Versets 17 à 20. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et donc c'est là le verset qui m'intéresse, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je ne fais pas une prédication sur la prédestination, on ne va pas partir dans ça, mais prédestiné avant la fondation du monde. En tout cas, Jésus, avant que le monde soit, c'était prévu qu'il se sacrifie pour nous. Et qu'est-ce que ça change pour nous tout ça? Plein de choses, ça nous montre que Dieu, il maîtrise totalement son sujet, il ne se trompe pas, et rien que ça, ça doit nous pousser à l'adorer. Savoir qu'il savait exactement comment ça allait se passer et qu'il ne s'est pas raté, c'est incroyable quand même de dire qu'il arrive à faire avec l'homme. On voit aussi le diable dans la Bible qui se démène tout le temps pour essayer de faire rater les choses de Dieu et qui en fait ne fait que la volonté de Dieu. Le plus beau point, on l'a déjà dit en étude biblique, c'est qu'il pensait avoir gagné en tuant Jésus. Yes, je l'ai eu, il a dû se dire. Et non, en fait, il a justement fait le plan de Dieu et il a mis le point final au plan de Dieu en le tuant. Et c'est impressionnant de dire, si lui, le diable, il n'a pas réussi à faire échouer les plans de Dieu, bah alors qui peut le faire? Il est bien plus fort que nous, c'est sûr. Mais il n'y est pas arrivé. Alors nous, ce n'est pas nous qui allons aller contrer les plans de Dieu, qui allons essayer de faire à notre propre tête, en fait. Ça veut dire aussi que Dieu nous aime dès le départ, avant même qu'on soit créé. Avant même que le monde soit créé, il nous aimait déjà. Du coup, on n'a aucune occasion d'en douter, en fait. C'est pas à dire, bah oui, mais moi, avec ce que j'ai fait, il ne peut pas m'aimer, ou moi, je suis un peu particulier, ce n'est pas le même cas. Non, avant même tout ce que vous aviez fait, il vous aimait. Il savait que vous alliez faire ça. Et pourtant, il vous aimait, il avait prévu de se sacrifier pour vous et pour moi. Alors ça, je pense que cette maîtrise de Dieu qu'on voit et qui fait que depuis le départ, il savait comment ça allait se passer, ça nous pousse aussi en fait à accepter dans des situations bien précises le plan de Dieu. Si sur un plan à grande échelle comme ça, on va dire sur 2000 ans, il ne s'est pas trompé, alors que dans ma situation précise à moi, je peux lui faire confiance, il ne se trompera pas non plus, c'est facile ça. Et là, c'est des petites choses comme ça qui tournaient autour de l'idée des prophéties qui sont accomplies. Et donc quand on voit dans Romains 1, cette idée de l'évangile qui avait été promis de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dieu ne se trompe pas. Je trouve ça, c'est aussi un encouragement toujours à lire l'Ancien Testament. On a tendance peut-être à dire, bon, le plus important, c'est le Nouveau, l'Ancien, bon, oui, ça va, mais non, 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 l'Ancien, il est tout aussi important et il nous explique beaucoup de choses de Jésus. Et c'est tous ces petites phrases de « comme il était écrit que » qui nous ramènent à chaque fois à l'Ancien Testament. C'est pour nous dire c'est important. Jésus, il a cité l'Ancien Testament aussi. Il a cité Jonas, il a cité d'autres choses. Et il a accompli énormément de choses qui étaient écrites dans l'Ancien. Et si mon but à moi, si votre but à vous, c'est de connaître Jésus, alors l'une des solutions qu'on a, c'est pas juste de chercher des expériences particulières, c'est pas de... Il y a plein de choses compliquées qu'on peut essayer, mais c'est aussi juste de lire la Bible, y compris l'Ancien Testament. Et on ne peut pas juste se dire, bon, bah, je vais chercher, je vais prier Dieu, je vais finir par le trouver, si on néglige déjà les choses qui sont faciles et qui sont écrites ici. Donc moi, ce petit passage-là, ça m'a encouragé à retourner encore et voir tout ce qu'on peut lire de moi dans l'Ancien Testament. On peut apprendre énormément de choses de Dieu dans l'Ancien Testament, on le voit avec Ésaïe, mais il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de choses où c'est épatant de savoir ce qu'il connaissait de Dieu déjà à cette époque-là. C'est ce que reprochait Jésus aussi aux pharisiens. On ne le tournait pas forcément. Il dit dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Et vous lisez les Écritures, mais ce n'est pas pour me chercher à quoi ça vous sert. Ça ne vous sert à rien. Et du coup, ça nous donne l'objectif de, quand je lis la Bible, à quoi ça me sert? À connaître Dieu. Ce n'est pas juste à devenir meilleur, à devenir ceci ou à avoir cela. C'est à connaître Dieu. Et le reste, ça découlera de ça après. si on revient à Romains, le verset 2, évangile qui avait été promis. Non, c'est pas ça. Juste après. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance. Et le de la postérité de David, ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Depuis le départ, il avait prévu que ce serait un descendant de David qui serait sur le trône définitivement. Alors, Salomon, les suivants ont dû dire, tiens, on accomplit la volonté de Dieu. En fait, il a dit à David qu'il aurait un successeur sur le trône. On fait partie de cet accomplissement. Mais il l'accomplit réellement, totalement en Jésus, qui est sur le trône, qui n'en bougera plus. Il n'y a plus besoin d'autre roi que lui. Ça, c'est un tout premier point dans l'Épître aux Romains. Donc, c'était l'aspect de tout ce qui est passé, l'accomplissement des prophéties, de ce qui est dans l'Ancien Testament. La chose qui ressort aussi beaucoup de ces versets-là, c'est la résurrection des morts, en fait, la résurrection de Jésus en particulier. Toujours ce fameux verset, en fait, on pourrait faire une prédique juste sur le verset 2, simplement. Mais verset 3, il concerne son fils, déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est le point central de l'évangile. C'est pas juste sa mort, c'est sa résurrection après. C'est ça qui est marrant, en fait, enfin qui est pas marrant, intéressant, mystérieux à propos de Jésus, c'est que il est fils de David, fils de l'homme, c'est un homme comme nous, mais il est fils de Dieu. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est fils de Dieu, outre tous les miracles qu'il a fait, c'est qu'il est ressuscité des morts. Alors, Paul le dit aux Corinthiens, en fait, il explique pourquoi c'est important, pourquoi la résurrection, c'est un point important. On pourrait dire, bon, bah ouais, il est ressuscité, voilà, c'est bon, mais non, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il le dit dans 1 Corinthiens 15. À partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et là, il insiste au verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. C'est aussi important pour nous, en fait. Tout tient à la résurrection, en fait. S'il n'y a pas ça, notre foi ne sert à rien, moi je suis là pour rien, et en fait, on a toujours la même vie. Pourtant, notre témoignage, c'est que notre vie, elle a changé. Ça, tout tient à la résurrection. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors pourquoi est-ce que Paul il dit qu'on serait les plus malheureux ? Parce que si Christ il n'est pas ressuscité, on n'a pas d'espérance en fait. On n'a pas d'espérance pour après, parce que nous non plus on ne ressuscitera pas, il n'y a pas de raison. Donc on n'a pas l'espérance d'aller au ciel avec lui, on n'a pas l'éternité, l'absence de mal, l'absence de maladie, tout ce qui nous... On va dire presque tout ce qui nous fait envie dans le ciel, de dire « Ah, il n'y aura plus tout ça, ça va être bien. » En fait, tout ça, c'est vain, ça ne sert à rien, s'il n'y a pas de résurrection. Et en fait, je pense que ça, c'est un... Je ne sais pas comment vous voyez ça. Quand on pense à la résurrection, on se dit c'est un peu théorique, c'est un peu loin, quoi. Et je crois que c'est d'autant plus loin qu'on a plaisir à être dans notre vie actuelle. Quand j'essaye de réfléchir un peu pourquoi tout ça, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à avoir l'urgence d'évangéliser l'importance de la résurrection ? Parce que c'est trop loin, en fait. Là, maintenant, si je n'évangélise pas maintenant, bah, peut-être que je n'aurai pas les conséquences tout de suite. C'est quand je vais mourir que je les aurai. C'est loin, peut-être. Mais peut-être, parce qu'on ne sait pas. Mais en fait, c'est ça notre problème, c'est que c'est tellement loin que bah, on ne capte pas l'urgence de faire tout ça et ça diminue l'importance. Et ceux qui apprécient moins leur vie sur Terre... Du coup, eux ont plus tendance à regarder plus loin et dire « Ah oui, il y a ça !» et à s'y raccrocher plus que ceux qui sont bien là comme ça. Et c'est la même chose avec les... Je sais plus où on trouve ça dans 1 Corinthiens 4, je crois. Il y a les choses visibles qui sont éphémères et les choses invisibles qui sont éternelles. On voit que les visibles, nous, parce qu'on est trop bien dans ces choses-là, on n'a rien besoin, en fait. On a besoin de très peu de choses et du coup, on est limité dans notre vision, on ne voit pas tout ce qu'il y a après et on est limité dans notre espérance aussi, en fait. Je pense que si on n'en a pas besoin, on ne l'espère pas. Ouais, peut-être que les chrétiens persécutés, en fait, ils ont une vision qui va beaucoup plus loin. Ils savent que c'est urgent parce que la mort, elle peut arriver déjà bien plus vite, parce que ils n'ont pas grand-chose à espérer de cette vie-ci. Donc, du coup, ils ont l'espoir que. Et on a quelque chose à apprendre d'eux sur ce point-là, de dire, faut que j'arrive à. C'est pas, faut que j'arrive à pas aimer ma vie comme ça, mais faut que j'arrive à revoir les choses telles que le Seigneur le veut. Et que lui me mette dans ma tête que ce que j'ai là, c'est peut-être bien, mais ça vaut rien par rapport à ce qu'il a. Et qu'il me donne cette faim, cette soif de plus, de vraiment le connaître, en fait, simplement. En pensant à la résurrection des morts, et puis juste en lisant le premier passage de Romains, je suis reparti dans Acte 2, qui est un long passage, mais. Moi, en le lisant, j'ai l'impression que c'était très similaire, en fait. Et c'est intéressant parce qu'Acte 2, c'est des propos de Pierre, et on retrouve vraiment des idées qui sont très proches de ce que dit Paul. C'est un encouragement de dire, bon, c'est pas juste une façon un peu particulière de voir de Paul, c'était le Seigneur qui inspirait les deux hommes de la même manière. Dans Acte 2, au verset 14, donc il y a eu la Pentecôte, l'Esprit qui est descendu sur les chrétiens qui étaient rassemblés à Jérusalem, et les gens se sont dit, mais comment ça se fait qu'on les entend parler dans ces langues-là? Ils sont ivres, quoi. Donc ça, c'est le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, au verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, ce qui correspond à 9 heures du matin, dans les petites notes en bas. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça n'est pas de rapport, mais je trouve c'est beau, donc je le lis. J'ai tendance à élargir quand j'ai un petit verset qui me plaît. Je prends le paragraphe parce que ça fait pas de mal de lire. Mais donc à partir du verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu le témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, on revoit des mots un petit peu qui nous font penser à Romains là-dedans, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et là, on revient encore une fois sur Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et donc après, Pierre explique, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, j'arrête la phrase, mais on voit encore, Dieu avait promis de mettre un descendant sur le trône, c'est toujours la même idée que Romain, et David était prophète, il voyait déjà ces choses bien avant. Il connaissait le plan de Dieu, en partie au moins bien avant. Donc comme il était prophète, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et donc on revient encore une fois, ce qui est important, c'est la résurrection. Ce n'est pas juste la mort de Jésus, c'est le fait qu'il soit rené. Ouais. C'est bizarre de dire qu'il soit rené, mais... ressuscité, voilà. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Je ressouligne juste les petites phrases qui m'ont fait penser à Romain. Cet homme, donc c'était au verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et dans Romain, on avait quelque chose comme... Je sais plus. Voilà, c'est l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et tout. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Alors tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et donc ce petit passage après que j'ai ressouligné, on dit comme il était prophète, c'est la résurrection de Christ qu'il annonçait et pas la sienne. Donc hein, ça c'était le deuxième point en fait de Romains, où le point central de tout, c'est la résurrection des morts. Je reprends le tout premier verset de Romains, qui dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Et les premiers mots, « Paul, serviteur de Jésus-Christ », ils m'ont fait réfléchir en fait à notre rôle, à notre but, ce qu'on fait en fait pour Dieu. Et ça fait penser tout de suite aux serviteurs, aux droits et aux devoirs du chrétien. Le serviteur, il fait juste ce que son maître lui demande. Il ne fait pas grève normalement, ce n'est pas un salarié, il est serviteur. Il ne fait pas grève, il ne râle pas, il ne décide pas lui-même de ce qui va se faire, il obéit, il agit, c'est tout. Et nous, on a tendance à voir souvent l'évangile aussi comme, voilà, je me tourne vers le Seigneur, du coup, il va me bénir, il va me faire ceci, il va me rendre comme ça, et on ressent tout sur nous, sur nos droits à nous, sur ce qu'on va acquérir de Dieu, je vais avoir le salut. Et voilà, on commence que des phrases par « je vais ceci » ou « c'est pour moi » et on centre tout sur nous. Alors que là, c'est le serviteur de Jésus-Christ, il obéit. Et tout est centré vers son maître qui donne les ordres et qui sait exactement où ça va. Et on a du mal, je pense, aussi à nous mettre dans la bonne place, en fait. À dire « voilà, je n'ai pas juste des droits, maintenant j'ai des devoirs de serviteur. Je dois obéir à Dieu, je dois faire ceci, cela. » Bien sûr, on récupère aussi tous les droits à côté. Mais c'est lié, il y a les deux, et il ne faut pas juste se dire, voilà, je prends tout ce qui est bon dans l'évangile, et puis après l'obéissance, le Seigneur, il pardonne quand je désobéis un petit peu. On a tendance à voilà, avoir que les côtés positifs, et les trucs négatifs, bon, on peut trouver une excuse, on peut s'arranger, quoi. Mais non, il y a les deux choses, et il faut y faire attention. Alors, je ne m'avance pas sur la question de... Apôtres, est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Tout ça, c'est les grandes questions philosophiques. Il y en a qui font des gros récits sur ça. En tout cas, Paul, il se dit appelé à être apôtre. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Déjà, c'est clair. Et ce qui est important pour nous, et je pense que c'est la deuxième partie aussi, mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et ça, c'est valable pour nous. Il n'y a pas de doute. On le voit un peu plus loin, en fait, au verset 5. Par lui, donc par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Finalement, peut-être que si, on peut t'appeler apôtre aussi, alors. Donc on a reçu la grâce et l'apostolat. Pourquoi ? Pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Et on voit après au verset 6, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et à tous ceux qui sont saints par vocation. Il y a vraiment toute cette notion de « je suis appelé à être serviteur », à être apôtre, à annoncer l'évangile, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Je suis appelé simplement par Jésus et je suis saint par vocation. Alors, c'est pareil, c'est des questions que je me pose assez régulièrement de qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? À quoi je sers, Seigneur, dans ton plan? Tu veux pas me laisser à part? Tu veux pas que je reste juste, ben voilà, à faire la routine, et puis voilà. Non, le Seigneur, il a un plan, on a tous une partie à jouer dans tout ça. C'est un jeu, non, c'est pas un jeu, mais c'est un aspect collaboratif, en fait. Il y a Brigitte, l'autre fois, qui a donné aux enfants des jeux. Il y a deux types de jeux, les jeux où on se bat les uns les autres, et c'est à celui qui gagne, et il y a les jeux collaboratifs où on joue tous ensemble pour remplir le même objectif. Voilà, l'annonce de l'évangile, c'est collaboratif. C'est tous ensemble. S'il y en a un qui joue pas le jeu, bah ça pose des problèmes et voilà, c'est pas le mode de fonctionnement idéal. Alors, on est appelé à être saint ou mis à part. Dans l'idée de saint, il y a forcément l'idée de mis à part, retirée du groupe, mais il y a aussi l'idée de purification. On trouve ça donc dans deux petits versets, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et donc, lié à ça, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou de l'impureté. Et dans 1 Thessaloniciens, donc toujours 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Au chapitre 5, toujours de Thessaloniciens, Paul y donne d'autres éléments sur la sanctification. Il nous dit donc au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie tout entier. Il ne prend pas juste des petits morceaux par-ci par-là pour faire du bricolage, il nous veut tout entier pour son œuvre à lui. Quel est le but de ça? C'est qu'on soit conservé irrépréhensible. C'est bien ça. Ça veut dire qu'on est irrépréhensible. Moi, je trouvais ça important parce qu'on a tendance à se dire, bah, je suis pécheur et puis bon, Dieu, il va effacer. Non, non, non. Dans l'esprit de Dieu, je suis irrépréhensible. Et il veut continuer à me garder irrépréhensible comme ça. Je ne fais plus rien contre sa loi parce que tout a été payé. Et c'est une façon de voir qui est quand même un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans nos esprits. Alors, comment est-ce qu'il nous sanctifie, Dieu? Comment est-ce qu'il nous met à part? Il y a plein de versets. J'ai pris Jean 17, verset 17. Sanctifie-les, donc c'est Jésus qui parle aux apôtres. Qui prie Dieu, en fait, à ce moment-là. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et on retrouve la même idée dans 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On y revient, hein, la parole de Dieu et la prière. Il y a des fondamentaux comme ça. Avant de chercher des grandes choses avec le Seigneur, je dois apprendre à le connaître des deux moyens qui sont à ma disposition. Et bah, c'est ces deux-là. Et c'est comme ça que je serai sanctifié. Et c'est comme ça que je pourrai annoncer l'Évangile. C'est comme ça que je vais connaître Dieu et lui ressembler, en fait. C'est simple, en fait, hein, parce qu'on cherche des trucs toujours sophistiqués et je pense qu'on se fait plaisir en cherchant sophistiqué. Parce que si c'est sophistiqué, j'ai un petit peu de gloire quand même à l'avoir trouvé, à l'avoir fait moi-même. Alors que là, c'est simple et c'est accessible à tout le monde. Dans Romains 1, toujours, j'y reviens, au verset 5, donc ça disait « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Le but de la sanctification, c'est pas juste que je sois dans mon coin et que je dis « Maintenant, je suis bien, je suis saint, je suis parfait, ah, je suis bien. » Non, c'est pour amener les autres à la foi, c'est pour l'évangile, en fait, c'est juste ça le but. Mais en même temps, je suis bien quand même, ça n'empêche pas. Alors, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, en fait, avant le verset 5, ça disait, donc, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et en fait, Jésus est devenu Seigneur de ma vie. C'est le pendant de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Quand je me donne à lui, il devient automatiquement Seigneur de ma vie. Je lui donne tout. Et comment est-ce qu'il a gagné ce droit? Par la résurrection. On y revient. Tout est lié, tout est mélangé dans ça. Et si je veux bénéficier du salut, je dois lui laisser cette place de Seigneur dans ma vie. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. En fait, je ne peux pas juste prendre les droits, prendre le salut et puis rester maître de ma vie moi-même. Il doit être Seigneur si je récupère le salut. C'est obligatoire. Il y a comme un échange, en fait. Si je lui donne ça, lui me donne ça. Mais il ne faut pas non plus, encore une fois, se compliquer la vie. Il y a peut-être moyen de marchander. On est ici comme ça, malheureusement, avec le Seigneur, de bon, allez, je vais donner ma vie, il sera maître, et puis comme ça, moi, je récupère ça. Parce que là, on n'a rien compris au salut. Parce que si je pense ça, c'est-à-dire que je pense que ma vie a une valeur quelconque. En fait, sans lui, bof, quoi. On a toujours de la valeur à ses yeux parce qu'on est ses créatures, mais on n'a rien à lui apporter, on n'a rien à lui donner, il a déjà tout. Et si je pense que je peux lui apporter quelque chose et qu'en échange il va me donner le salut, j'ai pas compris quelque chose. Il manque l'humilité, il manque la compréhension de ce que je suis réellement. Si je m'en mets à ma place, je me dis, non, en fait, je suis pécheur, je me mets devant lui, j'ai rien à lui apporter, mais bah, Seigneur, on revient en fait à la chanson de la semaine dernière, tel que je suis sans rien à moi, viens, prends-moi. Et il faut en arriver à ce point-là, c'est important, pour que lui puisse prendre la main complètement après, de dire, voilà, je suis Seigneur. Alors comment est-ce que Jésus fait son œuvre de salut dans notre vie? Je suis reparti sur Philippiens chapitre 1. Au verset 5, que j'ai trouvé qui était aussi assez proche de ce verset-là. Je ne peux pas avoir la bonne référence. Dans Philippiens 2, verset 5. Bon, on va reprendre le verset 4, il ne fait pas de mal non plus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et donc le verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. On retrouve vraiment les idées de Romains, hein. Il est venu comme un homme, il est venu comme un serviteur, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et les petits mots importants, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi et qu'il a été jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Et en fait, le salut pour nous, c'est la même chose. En fait, on arrive devant Dieu dans un état où on peut être qualifié quasiment de mort. Seigneur, je vaux rien, je mérite rien, mais j'ai compris que j'étais pécheur et que tu avais payé pour moi. Alors, bah prends-moi, fais ce que tu veux. Et au moment où j'abandonne tout ça, lui devient Seigneur de ma vie. Et c'est pourquoi Dieu aussi peut nous élever après et nous reprendre dans son entreprise, dans le travail qu'il fait. Et la base de l'évangélisation, comment on peut amener les gens. Donc, je ne suis pas clair dans mon idée. Pourquoi je parle de l'évangélisation? Parce qu'il y a le verset 10 donc de Philippiens qui dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Tout ça, c'est dû à quoi? À l'obéissance de départ, en fait. À la mort de Jésus sur la croix, à son obéissance. Et je pense que ça nous donne aussi à nous une clé pour l'évangélisation, de pas juste essayer d'imaginer des moyens d'évangéliser au mieux, de dire tiens, il y a tel truc, ça pourrait être bien de faire ça comme ça, mais de juste obéir, rester humble devant Dieu, et alors c'est comme ça qu'il donnera du fruit. Après, c'est sûr, il faut réussir à comprendre ce que Dieu veut et quelle méthode il veut qu'on emploie. Mais le plus important, c'est pas la méthode, c'est de rester devant Dieu et de rester humble et juste de rester humble, en fait, lui, il fera le reste. Une petite dernière chose sur Romains 1. Le verset 1, on y revient. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et en fait, après, on voit que ce n'est pas juste pour Paul. Au verset 6, vous êtes vous aussi, donc parmi les païens, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et là, encore une fois, il faut remettre les choses à leur place. Ce n'est pas je suis venu vers le Seigneur, je, je me suis humilié, j'ai reconnu que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est lui qui a fait le premier pas. Et on a toujours tendance à, encore une fois, remélanger les choses et tout centrer sur nous, alors qu'en fait, tout doit être centré sur lui. C'est une façon de voir les choses qui est différente, hein. Il y a des... C'est bête, mais... Une fois, je sais plus, je suppose si je faisais la vaisselle ou je rangeais quelque chose, et puis en fait, Maï a déplacé un couteau, et mon bras est passé pas loin du couteau. Et en fait, on a tourné les choses, c'est mon bras qui a essayé d'aller heurter le couteau. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses, en fait. C'est le couteau qui a essayé d'accrocher mon bras, ou alors c'est moi qui ai essayé d'accrocher le couteau. Bon, je pense plutôt pour la première, mais voilà, on peut voir les choses de deux manières différentes, suivant la personne chez qui on se place. Et en fait, on a tendance à faire tout l'inverse avec Dieu, à se dire c'est moi qui suis allé vers Dieu, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui. Et pourtant, non, on n'a rien fait nous-mêmes au départ. On retrouve ces idées-là dans 1 Jean 4, verset 19, qui dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et dans Romains 8, verset 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » On a bien centré dès le départ, hein, « Car ceux qu'il, donc Dieu, a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voilà, là, tout est sur la bonne ligne. Tout vient de Dieu et c'est lui qui fait toutes les choses. C'était les trois idées que je voulais tirer en fait de ce passage de Romains. Il y en a plein d'autres, hein, quand vous voyez, on peut quasiment faire un truc sur chaque mot dans ces phrases à Paul. Mais c'était l'idée de tout vient de l'Ancien Testament. Enfin, tout était prévu. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il se trompe pas et c'était déjà écrit d'avance. Et c'est utile d'aller voir ce qui est écrit. L'évangile, c'est la résurrection de Jésus. C'est ça le point important. Et le troisième, c'est qu'on est serviteur. Et que tout est centré autour de Dieu et pas de nous. Alors comme conclusion, il n'y a pas plus facile que de prendre la conclusion de Paul. Donc Romains 16. Les versets 25 jusqu'au 27. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Alors, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose quand je l'ai lu. Moi, quand je l'ai lu, j'ai fait « Hein ?» Et en fait, la phrase, il n'y a qu'une phrase, quoi. Il y a une phrase qui fait ça de ligne. Donc du coup, la solution, quand c'est comme ça, c'est aussi de se remuer un peu les méninges et d'essayer de couper la phrase pour essayer de reconstituer des phrases humainement compréhensibles. C'est aussi de reprendre une autre version de la Bible. Quand c'est comme ça, mais je vous l'encourage à le faire, il y a souvent la Bible du Semeur, ou alors Darby fait des phrases des fois un peu tournées bizarrement, à mon avis, à moi, mais la Bible du Semeur, elle fait ça de manière souvent beaucoup plus facile à comprendre. Et donc là, les versets, ça donne, dans la traduction du Semeur, « Béni soit Dieu », facile à comprendre, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Point. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Point. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle, par Jésus-Christ. Amen. Et là, quand on le lit, ça va beaucoup mieux avec des points intermédiaires et des phrases. Donc, juste Dieu, Paul loue Dieu pour ce qu'il fait, il nous rend fort, il peut nous affermir. Je sais pas, c'est bien de terminer avec ça, on sait que Dieu peut nous rendre conforme à tout ce qu'on lit dans la Bible. On a de la chance, parce que le plan de Dieu il s'accomplit de façon manifeste de nos jours. On dirait pas, hein, des fois. Mais pourtant, tout s'accomplit de manière bien plus visible que ce que ça a été avant. Et ça, c'est une chance pour nous aussi. C'est moins compliqué à saisir et je pense que c'est plus facile aussi pour l'évangélisation. On voit le plan qui commence à s'accomplir, à se terminer même. Les écrits des prophètes parlent de ce plan de Dieu Donc ça, c'est encore une invitation à lire l'Ancien Testament pour comprendre ce que Dieu fait. Et le but, c'est encore une fois d'amener l'Évangile à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles obéissent à la foi. Voilà. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, pour ces propos qui sont riches, Seigneur, en quelques phrases, des vérités qui sont énoncées. On te prie de nous aider à les comprendre, Seigneur, et à les vivre. Seigneur, aide-nous non aussi à ne pas devenir des intellos de la Bible, Seigneur, à connaître beaucoup de choses en théorie, mais aide-nous à prendre les choses pratiques, ta parole et la prière, Seigneur, et à persévérer dans ces choses-là. Merci, Seigneur, des richesses qui découlent de tout ça, et Seigneur, de ce que ton plan est parfait et prévu bien à l'avance. Merci, Seigneur Jésus. Amen.